C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Allez, c'est parti, nouveau podcast et même plus précisément, nouvelle interview. L'interview de Mike du site Dragueur de Paris. Alors, cette interview est un peu particulière sur mon podcast. Pourquoi ? Car comme durant tout ce mois de décembre 2020, il ne s'agit pas directement d'un échange qui va concerner les neurosciences, la neuroergonomie et la surperformance professionnelle. En effet, cette interview va être axée principalement autour de l'entrepreneuriat et des conseils de Mike ainsi que des miens pour monter en parallèle de son activité CDI, donc salarié, un projet entrepreneurial. Donc comment faire pour se dégager du temps et comment faire pour faire la transition psychologique de salarié à entrepreneur. Alors, ce podcast concerne bien évidemment les personnes qui veulent se lancer à leur compte dans l'entrepreneuriat, mais également toutes les personnes, et je sais que c'est votre cas, qui veulent tout simplement optimiser leur temps au quotidien, soit pour pouvoir faire plus chaque jour, soit pour pouvoir au contraire se libérer du temps pour d'autres activités ou pour profiter tout simplement de ses proches, de ses amis ou de sa famille. Je vous laisse dès à présent avec l'échange que j'ai eu avec Mike. Eh bien, bonjour Mike.
Bonjour Jérémy, merci de ton invitation, super content d'être là.
Eh bien, super content de te recevoir aussi pour un sujet qui est un peu, on va dire de prime abord, éloigné par rapport à ce que je fais habituellement, à savoir plus l'entrepreneuriat, mais qui va me permettre, et toi aussi d'ailleurs, de parler un peu de neurosciences et de neuroergonomie.
Oui.
Donc Mike, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter déjà aux personnes qui t'écoutent en ce moment même, s'il te plaît ?
Oui, alors donc bonjour à tous, Mike, ancien salarié, entrepreneur depuis maintenant un an, donc très rapidement, j'ai été ingénieur puis chef de projet pendant 10 ans, donc dans l'aéronautique, donc à la base je viens d'une filière technique. Un milieu que j'ai décidé de quitter ensuite, puisque sur les derniers temps, j'ai monté deux activités en parallèle. La première activité, qui est toujours mon activité principale, dans un milieu un peu spécial, un peu méconnu des gens, c'est celui de la séduction. Donc, c'est-à-dire j'ai toute une entreprise qui tourne dans le milieu de la séduction pour les hommes célibataires de 30 à 35 ans qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Ainsi que une deuxième activité qui est celle de copywriting, hein, puisque je m'étais formé au copywriting avec cette activité de la séduction. Et puis aujourd'hui, je propose des services de coaching à des chefs d'entreprise qui ont déjà une entreprise qui tourne et qui souhaitent aller au-delà. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on va parler pendant l'interview. C'est pas une activité que j'ai montée du jour au lendemain. C'est une transition que j'ai préparée tout en ayant un travail à côté, un travail en CDI à plein temps, assez prenant mentalement, ce qui m'a obligé quelque part à m'intéresser à tous les sujets productivité, etc. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui.
Mmh, bien sûr. Et avant d'en parler, justement, peux-tu définir ce qu'est le terme de copywriting pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme-là, justement ?
Ouais, alors, résumé en une phrase, le copywriting, c'est l'art de transformer des visiteurs en acheteurs. C'est-à-dire que vous avez des visiteurs qui arrivent sur votre site internet, où vous proposez des produits ou des services, et le copywriting, c'est une forme de marketing avancé pour convertir ces personnes-là, pour les convaincre et pour les faire acheter chez vous, tout simplement.
D'accord, très bien, je te remercie. Alors du coup, j'ai voulu t'inviter sur le podcast pour la simple et bonne raison qu'on a un peu le même parcours, façon de parler, c'est qu'on s'est lancé tous les deux.
Ouais.
Et on a commencé durant notre activité en tant que salarié, on a fait ça en mode side project comme on dit aujourd'hui. Et justement, avoir ton retour par rapport à tout ça, un peu voir les pistes que tu as développées de ton côté pour justement te lancer à 100%, ça m'intéresse actuellement, je pense que ça peut intéresser des gens dans l'auditoire, façon de parler. Donc déjà, combien de temps tu as mis pour quitter ton emploi et te lancer à 100% sur ton activité actuelle ?
Alors, entre le moment où j'ai commencé le tout début et le moment où je suis parti, il s'est écoulé 3 ans à peu près. Sachant que, précision utile, je gagnais déjà suffisamment pour partir si je le voulais au bout de un an et demi d'activité. C'est-à-dire que j'ai mis un an et demi à passer de 0 euros à 2000 euros par mois, ce que j'estimais être le minimum syndical pour pouvoir quitter un CDI qui était confortable, où j'avais un travail super intéressant. Mais j'ai quand même mis le double pour vraiment partir. Déjà parce que bon, j'avais comment dire, j'avais le travail m'intéressait, hein, c'était pas le problème. Mais surtout parce que j'avais énormément de blocages émotionnels, des blocages mentaux qui m'ont retenu pendant longtemps de partir. Alors qu'en fait, c'était pas un blocage pécunier. J'avais beaucoup de personnes qui me disaient « Attends, Mike, c'est bon, tu gagnes l'argent assez, tu peux partir. » Mais en fait, j'avais des blocages que j'ai traînés pendant des années, blocages qui proviennent essentiellement de mon éducation de salarié, on va dire, hein, puisque je viens d'une famille où il y a que des salariés. Je suis le seul entrepreneur de toute la famille, donc j'ai été éduqué avec ce mindset-là. Et j'ai mis très longtemps à acquérir ce mindset justement d'entrepreneur. Donc c'était plus un problème émotionnel que rationnel finalement.
D'accord, ça marche. Et du coup, il n'y a pas aussi une notion, donc émotionnelle bien évidemment, donc c'est lié à ça, une notion de peur de rejet potentiellement de la part de tes proches, parce que comme tu étais le seul dans ta famille à être entrepreneur potentiellement, en tout cas entrepreneur en devenir.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait ça comme notion que tu avais à l'esprit potentiellement de dire voilà, mes parents ne vont pas approuver ma décision vont potentiellement me critiquer, je sais pas, est-ce qu'il y avait des notions comme ça sous-jacentes dans ta décision?
Alors ça a joué un petit peu, c'est vrai. Bah d'ailleurs, le jour où j'ai annoncé ma démission et que j'ai annoncé à ma famille que je démissionnais, et c'était en pleine crise, hein, c'était en pleine crise du coronavirus, personne n'a compris, honnêtement. Ma mère, quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé, elle m'a dit « T'as fumé? T'es malade? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle comprenait pas. Donc effectivement, mes collègues non plus n'ont pas compris. Il y a aucun de mes collègues qui m'a dit « Ouais, t'as pris la bonne décision, j'espère que tu vas réussir, machin. » Au début, ils étaient tous un petit peu stone, ils m'ont tous regardé en mode « Mais à quoi tu joues, quoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'en fait, ce sont tous des salariés, tu vois. Ce sont des personnes qui n'ont pas, qui n'ont jamais monté une entreprise de leur vie. Donc du coup, ils sont incapables, effectivement, de comprendre ce raisonnement-là. Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'en détacher. Ça, c'était le premier aspect. Donc un aspect plus externe par rapport à ton environnement, l'environnement familial notamment. Et après, le deuxième aspect, je dirais, c'était plus des croyances limitantes que j'avais, c'est-à-dire des peurs plus exactement. Des peurs comme le fait de te retrouver livré à toi-même. Parce que je pense que tu l'as connu toi aussi, Jérémy, quand on est en CDI, c'est confortable quelque part. T'as toujours le même salaire qui tombe à la fin du mois. Même si ta boîte ferme, t'as toujours le salaire. S'il y a télétravail, t'as toujours ton salaire. Si t'es malade pendant 2 semaines, t'as toujours ton salaire. Et quelque part, quand tu te retrouves entrepreneur à plein temps, tu deviens responsable de ta vie à 200%. T'as pas d'excuses derrière lesquelles te cacher. T'es rémunéré au résultat finalement. C'est-à-dire si ce que tu fais marche, tu réussis, tu gagnes bien ta vie. Et si ce que tu fais ne marche pas, même si t'as bossé 80 heures par semaine, t'en payes le prix quelque part. Et je sais que j'ai mis un moment à accepter ce risque-là, alors que tout le monde me disait que ça allait le faire, tu vois. Mais c'était vraiment des blocages purement émotionnels, hein. Il y avait absolument rien de rationnel. Mais j'ai mis un an et demi à faire ce switch mental.
Est-ce que tu regrettes aujourd'hui le temps que tu as pris à faire ce switch, justement ?
Non, parce que ça m'a permis d'accumuler suffisamment de raisons pour faire le switch et pour pas revenir en arrière. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'une peur aussi que j'avais, c'était j'avais peur de regretter. C'est-à-dire j'avais peur d'arrêter une carrière d'ingénieur qui était toute tracée pour prendre un risque en montant un projet personnel et le regretter 2 ans après, et puis revenir un petit peu en pleurant en disant « Ah non, j'ai fait le mauvais choix, etc. » J'avais un peu peur de ça, et je pense que j'ai mis aussi un an et demi justement à me rassurer, à voir que l'activité, au bout d'un an et demi, elle continue de croître, que ça marche super bien, mais aussi un an et demi à... comment dire... à ne plus avoir de raison de rester salarié. C'est-à-dire, il y a encore un an et demi, j'en avais des raisons. C'est-à-dire, je passais mon temps à voyager, puisque je faisais un travail qui faisait que les 2/3 du temps, j'étais à l'étranger, hein, je passais mon temps dans l'avion. Le projet était super intéressant. J'en avais pas encore marre de faire des réunions. Il y avait aussi ça qui a joué. J'avais quelqu'un, j'appelais ça un mentor, c'était mon chef, quelqu'un qui était ultra compétent, qui m'apprenait plein de choses. Et ça, c'était il y a 1 an et demi. Mais au fur et à mesure, ça a changé. C'est-à-dire, mon chef a été muté, donc il était plus dans le service. Le coronavirus est arrivé, donc j'ai arrêté de prendre l'avion. Les réunions, ça a commencé à me taper sur le système parce que on n'avançait pas et c'était toujours pareil. Et au bout d'un moment, bah, j'ai accumulé des raisons qui m'ont permis de faire le switch puisque ce que je faisais ne me rendait plus heureux, tout simplement.
D'accord, très bien. Et je reviens rapidement à cette notion de famille, de difficulté à l'annoncer. Donc je suis en plein dedans, mais parce que ça fait du coup 1 an que j'ai quitté mon activité et ma famille le sait toujours pas.
Ah, tu
Donc
l'auras pas dit?
non, j'ai toujours pas dit. En fait, j'ai
Ah
une famille qui
ouais.
de nature est assez anxieuse de base. Ils ont vraiment un gros côté anxieux, une grosse peur par rapport à l'avenir. On va dire que le confinement non plus n'aide pas. C'est un peu les personnes de la vieille école.
Ouais.
Et en fait, j'ai plus la balance sur des risques-bénéfices. Le bénéfice, c'est quoi? C'est être un peu à l'aise par rapport à ça, mais le risque, c'est que eux s'inquiètent davantage par rapport à moi. Donc, je suis encore un peu dans cette notion-là, donc je tente réellement de stabiliser l'activité un maximum pour réellement l'annoncer et avancer presque des chiffres tangibles pour les
Ouais.
mettre en parallèle
Ouais.
et les rassurer. C'est assez compliqué, effectivement, quand t'as des familles comme ça un peu craintives par rapport à toi, et qui s'inquiètent et qui, au final, t'étouffent de leur peur plus qu'autre chose. Et créent des peurs là où, à l'origine, il n'y avait pas de peur pour toi.
Ouais,
Donc il y a ça aussi
effectivement.
qui se rajoute.
Ouais, surtout
Et...
si t'es en phase de démarrage et que ton truc a pas encore explosé, c'est-à-dire si t'as pas un groupe Facebook où en gros il y a 100 000 abonnés dessus, ils vont penser que t'es en train de galérer, que c'est dur, etc. Ils vont s'inquiéter pour toi et tu vas recevoir tout le temps des textos, des appels où ils vont essayer de savoir
Bien
si ça
sûr.
va bien et ça pèse un peu effectivement.
Et si en parallèle, t'as déjà fait de l'immobilier, c'est compliqué avec la crise actuellement. Si t'as un enfant puis une compagne qui se lance aussi, ce qui est mon cas, ça complexifie encore plus les choses pour l'annoncer et l'officialiser, on va dire.
Ouais, je comprends,
Ça marche. Et du coup, par rapport à tes collègues, petite question, est-ce que t'es encore en relation avec eux actuellement ou est-ce que t'as, on va dire, le fait d'avoir quitté l'entreprise a créé une scission entre toi et eux, en termes de centre d'intérêt, en termes d'échange ou autre?
bah alors c'est marrant que tu me poses la question parce que j'y ai repensé il n'y a pas très longtemps. La réponse est oui et non. Oui, je suis toujours en contact avec certains collègues avec qui j'avais les meilleures affinités. Mais affinité extra-professionnelle, c'est-à-dire des personnes avec qui j'allais boire des coups en dehors du travail. Donc ces personnes-là, je garde toujours un contact avec elles et ça se passe bien. Par contre, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que je bois un coup avec eux, je me sens en décalage par rapport à eux. C'est-à-dire que les problématiques qui les concernent, leur mode de vie, c'était le mien il y a 1 an, parce qu'il y a 1 an, j'étais encore salarié. Mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et en fait, j'ai l'impression d'être sur une autre planète à chaque fois que je suis en train de discuter avec eux de comment ça se passe, de leur vie, etc. Et maintenant, alors qu'avant, par exemple, quand j'étais salarié, il y a 1 an, il y a 2 ans, je me sentais en décalage quand je buvais un coup avec des entrepreneurs, par exemple. Quand je parlais avec des chefs d'entreprise, je me sentais en décalage, par rapport à eux. Et maintenant, c'est l'inverse, parce que bah, en fait, quand tu passes de salarié à entrepreneur, tu changes complètement de monde. C'est-à-dire, les personnes qui sont salariées ne te comprennent pas, c'est ce qui arrive souvent. Et les seuls qui te comprennent, en fait, c'est les chefs d'entreprise. Donc du coup, ce qui se passe, et c'est peut-être arrivé pour toi, Jérémy, je sais pas, c'est un changement dans ton cercle social. C'est-à-dire, il y a encore 2 ans, mon cercle social, c'était essentiellement des salariés. Et ben maintenant, c'est essentiellement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise.
Moi, je l'ai connu également de mon côté. Effectivement, t'as un vrai écart, comme tu le dis très bien, entre les gens qui ont des routines quotidiennes avec le confort du travail, avec leurs problématiques liées au travail, et nous en tant qu'entrepreneurs où c'est un peu différent. Effectivement, il y a ça qui peut peser également dans la balance parce que c'est une forme de rejet social aussi. Mine de rien,
Ouais.
certaines personnes vivent assez mal
Ouais. Je sais pas,
parce
je te
qu'on
donne un
exclut du groupe en
exemple.
quelque sorte.
Une fois, j'avais une discussion, c'était bah, sur un sujet que tu dois connaître, le deep work, par exemple. Une fois, j'ai pris
Oui.
un apéro avec, y en a qui étaient entrepreneurs et d'autres salariés. Et on s'est mis à parler de deep work, c'est-à-dire de chercher des méthodes pour être plus productif, plus concentré, etc. Et bon, évidemment, ceux qui étaient salariés, ils savaient pas du tout ce que c'était. Mais en plus, ils en voyaient pas l'intérêt. Ils disaient, putain, mais les gars, vous parlez de sujet, mais on sait même pas ce que c'est, on sait même pas ce que ça peut nous apporter, quoi.
Et puis le monde du salariat ne pousse pas au deep work non plus, donc le deep work étant le fait d'être concentré à 100% sur une tâche pendant 1 heure à 2 heures
Ouais.
sans interruption, alors qu'au travail on est constamment interrompu.
Bah,
T'as le
même
téléphone qui sonne, t'as les emails, le responsable qui rentre dans le bureau ou autre, c'est très compliqué.
on encourage l'inverse, même aux salariés, on encourage, je pense que tu l'as vu quand tu étais salarié aussi, on encourage à avoir l'air occupé. Donc c'est-à-dire en fait, on encourage les salariés à ressembler à des espèces de pieuvres multitâches qui font un milliard de trucs à la fois, juste pour être bien vu de la part des collègues et du chef, pour qu'on puisse dire, ah ouais, lui il fait un milliard de trucs, c'est qu'il doit être bon, alors qu'en fait, c'est un truc que j'ai vu systématiquement, ceux qui s'amusent à faire les pieuvres du multitâche, ils sont pas productifs du tout. Ils sont tout le temps en train de switcher d'une tâche à une autre, et en fait, ils sont moyens dans à peu près tout ce qu'ils font. Alors que quand tu es entrepreneur, tu peux pas te permettre de faire ça.
C'est vrai. Et l'autre notion aussi qui est assez flagrante, c'est le temps de présence. Je trouve que l'entreprise, le temps de présence est largement survalorisé par rapport à l'efficacité professionnelle.
Oui.
Une personne qui va venir de 8h du matin, qui va partir à 19h, sera bien vue, même si elle fait pas son travail à 100%, contrairement à une personne qui viendra une demi-journée de temps en temps et qui, elle, fera son travail à 100%.
Ouais.
Forcément, je grossis un peu les traits, mais tu vois là où je veux en venir, je pense.
C'est exactement ça.
C'est vrai que c'est compliqué, on est vraiment formaté au niveau de l'entreprise par rapport à tout ça, et tout ça fait perdre au final de la productivité par rapport aux sociétés, et c'est assez compliqué à démontrer et à faire comprendre surtout, je trouve.
Ouais. Alors je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays du monde, mais en tout cas en France, c'est très très ancré, ouais.
En France, ça l'est effectivement, oui. Mais en tout cas, avant le confinement, parce que du coup, le confinement a potentiellement débloqué des choses par rapport au télétravail, c'est encore autre chose. Mais avant ça, effectivement, c'était assez ancré.
Et encore, j'en parlais avec
Et
des collègues
encore, oui.
salariés. Moi, je leur disais que j'espère que le télétravail, ça va permettre de planter une graine et de faire prendre conscience aux employeurs que le travail, c'est pas forcément une mauvaise chose. De ce que me disent certains collègues, j'ai l'impression que ça changera peut-être pas. C'est-à-dire qu'une fois que le Covid aura disparu, qu'on reviendra au travail d'avant et que le télétravail sera toujours bâché comme un truc négatif. Parce que ça ne permet pas de surveiller ses salariés pour vérifier qu'ils font bien du 8h-18h, quoi.
On revient à cette notion un peu de flicage qu'on a un peu sous-entendu tout à l'heure. Ouais,
C'est ça,
c'est vrai.
flicage plutôt que la recherche de la performance.
Et de la confiance aussi.
Et de la confiance.
Ce qui génère un peu tous les problèmes qu'on a actuellement, dépression, burn-out et burn-out.
Ouais.
Bon, c'est un vaste sujet, on pourra en parler pendant des heures, je pense. Autre question également que je voulais te poser et que je me suis noté à côté de moi. T'as dit que t'as mis quasiment 1 an et demi à 2 ans pour faire le pas, pour franchir le pas, pardon. Est-ce que
Ouais.
t'as eu un moment réellement de déclic où tu t'es dit à un instant T, là c'est bon, je peux y aller. En
Eh
mode vraiment la
bien.
révélation, là c'est bon, j'ai assoi mes 4000 euros par mois, grosso modo, après ce que tu m'as dit, là c'est bon, je peux y aller, ou est-ce que c'était réellement progressif?
Non, j'ai eu un déclic effectivement, et ben figure-toi que c'est lors du premier confinement.
D'accord, c'est le confinement qui t'a. Ok.
Ouais, ça a été le déclic inattendu, parce qu'en fait, il y avait deux raisons qui faisaient que j'étais pas encore prêt à partir. Il y a la première parce que j'avais un chef que je considérais comme étant un mentor et qui m'apprenait énormément de choses. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que, comme je t'avais dit, j'exerçais une profession où j'étais en permanence en train de bouger, j'étais en permanence dans l'avion. Je le cache pas, c'est un train de vie qui était assez confortable et j'aimais beaucoup ce train de vie. Et il y a eu le confinement soudainement et là j'ai compris assez vite que ça allait durer et qu'à partir de là, que je retrouverais pas forcément ma vie d'avant. Et puis à partir de là, je me suis retrouvé obligé de bosser depuis chez moi sur ces sujets-là. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que sans ce train de vie que j'avais avant, en fait, le travail était beaucoup moins intéressant et qu'en fait, j'avais plus du tout de plaisir à travailler dessus. Je l'avais complètement perdu. Je l'avais encore il y a 2 ans, mais là, les projets au bout de 4 ans à travailler dessus, j'avais plus de plaisir. Et c'est là que je me suis dit, non, c'est plus possible. Faut que je change parce que je prenais 100 fois plus de plaisir à faire du copywriting, soit pour mes activités ou soit pour mes clients, que de travailler sur, que de faire de l'ingénierie comme je faisais avant. J'avais vraiment changé de perspective. Et c'est là que j'ai compris que c'était le moment de faire le switch. Donc du coup, je me suis le délai que je me suis donné, c'était je bosse dessus à fond pendant le premier confinement et je dépose ma démission à la fin du premier confinement. Et c'est ce que j'ai fait.
D'accord. Ok, ça marche. excuse-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. Et du coup, la question que je me posais par rapport à ça, c'est comment t'as négocié ça au niveau de l'entreprise? T'as fait une rupture conventionnelle, t'as démissionné? Comment t'as amené un peu ça, si les gens sont intéressés, pour connaître un peu le processus qu'il y a derrière?
J'ai pas cherché à négocier parce que je savais que, comment dire, bah déjà je gagnais trop pour toucher tout ce qui est assurance, chômage, etc. J'avais regardé un petit peu les dispositifs, ce qui était une nouveauté pour moi parce que j'ai jamais été au chômage de toute ma vie. J'ai toujours travaillé, enfin j'ai toujours soit été à l'école, soit travaillé. J'ai jamais été au chômage dans ma vie, donc du coup j'ai découvert les aides de l'État qui existaient. J'ai découvert que j'étais pas éligible, première chose. Et puis ensuite, deuxième chose, bon, je peux pas dire qui c'est, mais j'avais un employeur un peu spécial qui faisait que la rupture conventionnelle, ça risquait de prendre du temps, et surtout, ça risquait de pas être accepté. Et à partir de là, en fait, j'ai pas voulu prendre de risque, donc j'ai déposé purement simplement ma démission pour me débarrasser de ça le plus vite possible et pour basculer à plein temps sereinement sur mon activité sans avoir toute la paperasse des aides de l'État derrière, quoi.
D'accord, ça marche. Moi, à l'inverse de toi, j'ai fait une rupture conventionnelle. Après, ma décision, elle était dans un cadre parfait dans le sens où l'entreprise pour laquelle je travaillais a été rachetée. Et donc, j'ai profité un peu de l'opportunité du rachat pour m'éclipser et lancer l'activité à 100% de mon côté.
Parce que
Donc, la
quand tu
négociation
te fais
était beaucoup
racheter
plus
comme ça,
simple avec le racheteur.
quand tu te fais racheter comme ça, ils acceptent plus facilement une rupture conventionnelle.
En fait, vu que j'étais le premier à poser ma rupture dans ce cadre-là, ça a fonctionné. En fait, j'avais des opportunités qui m'étaient présentées, des choses intéressantes, hein, créer un cabinet de recrutement, notamment dans une ville, bref, des choses super intéressantes, monter à Paris aussi pour des projets, mais rien ne me passionnait. J'avais perdu réellement la passion pour le recrutement depuis quelques années déjà, je faisais ce travail de façon alimentaire, on va dire, et en exposant ça, j'ai pu réussir à négocier cette rupture conventionnelle. Et étant le premier, je pense qu'ils l'ont accepté pour bien se savoir par rapport aux autres collaborateurs, et potentiellement écrémer un peu justement les listes de collaborateurs qu'ils ont rachetés, pour mettre les leurs.
Bah, c'est vrai que c'est
Et j'ai eu
toujours
cette
mieux si
chance-là, on va
t'arrives
dire,
à...
l'occasion s'est bien présentée, ouais.
Si t'arrives à avoir la rupture conventionnelle, c'est vrai que c'est mieux. Après, ça dépend de la situation à chacun. Par exemple, si t'as une activité qui a pas trop décollé ou que tu génères pas, t'es en dessous des 1000 ou 2000 euros par mois, par exemple, ça vaut le coup effectivement de faire une rupture par sécurité. Par contre, si t'as une activité qui tourne déjà très très bien, qui est en croissance chaque mois, ce qui était mon cas à l'époque, qui est toujours le cas aujourd'hui, ça sert pas à grand chose, quoi.
Moi, effectivement, au début, j'étais à zéro de chiffre d'affaires, parce que je ne vendais pas encore à l'époque. J'avais peut-être 64 personnes qui étaient sur ma newsletter, tu vois, donc c'était assez faible. Donc j'ai bénéficié du système et j'ai bien fait, très clairement. Ça m'a beaucoup aidé au début.
Ah oui, dans ce cas-là,
Donc
effectivement, c'est très bonne chose.
j'avais effectivement le podcast depuis un an, mais qui n'a jamais été monétisé jusqu'à présent. Qui n'avait pas été monétisé jusqu'à présent.
Parce que ton podcast, tu l'as
Ok.
depuis un moment déjà.
Je l'ai depuis, je crois, décembre 2018. Donc on arrive déjà sur 2 ans, effectivement, ouais. Et j'ai commencé réellement à me lancer dans les formations, on va dire, plus poussées que les podcasts, avec un réel accompagnement ou autre, à partir fin du premier trimestre, je crois, 2020.
En décembre 2018,
Au début, il n'y avait
t'envisageais
pas de
déjà
newsletter, il n'y avait
de
rien, donc.
partir?
Oui, depuis très longtemps. Je pense qu'avant même de commencer à travailler, je voulais partir. Très
Ah
clairement.
ouais,
J'ai toujours
d'accord.
voulu effectivement monter des projets. J'ai monté plusieurs projets de mon côté dès qu'ils n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, j'avais une chaîne YouTube à l'origine, les ressources humaines. J'ai quitté YouTube pour la simple et bonne raison que le côté un peu fun m'ennuyait. C'était pas là où je voulais m'aventurer. Après, j'ai créé un site sur les ressources humaines. J'ai créé aussi un site pour les sportifs au niveau de la nutrition, qui drivait beaucoup de monde. On a encore avec ma compagne, on l'a fait à deux. On a encore quasiment 3 000 visites, je dirais par jour, pas loin. Mais on n'a jamais réellement adhéré au final avec la cible qu'on avait. On s'est un peu détaché au fur et à mesure. Et après, je lançais le podcast à 100% de mon côté. Où là, réellement, je suis aligné avec mes valeurs et mes idées. Donc oui, effectivement, je lançais plusieurs projets avant même réellement de commencer à travailler à 100%.
Ouais,
Plus l'immobilier aussi, voilà.
ce qui est une bonne chose, que
Donc
ça te
depuis le
permet
début, j'avais ça.
d'expérimenter plusieurs projets pour voir lequel avec lequel t'accroches le plus, avec lequel les gens accrochent le plus avant de te lancer à fond dessus, quoi.
Et ne pas reproduire les erreurs qui ont conduit aux échecs aussi.
Aussi, ouais.
Ça, c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant. Typiquement, sur le site de nutrition, on ne ciblait personne. Et du coup, en ciblant personne, on n'a eu personne. C'est aussi simple que ça. Chose que je n'ai pas faite avec le podcast, où là, je cible précisément les gens que je veux recevoir et mince, que je veux toucher, tout simplement.
Ouais, c'est très très important effectivement d'affiner le ciblage, parce que sinon tu te ramasses ce que j'appelle des touristes, c'est-à-dire des personnes qui vont écouter un peu, mais qui vont jamais vraiment appliquer tout le matériel que tu leur donnes et qui n'auront jamais de résultats en fait. Alors que si tu soignes bien ton ciblage, tu t'adresses aux bonnes personnes, là tu vas avoir des personnes qui vont avoir du résultat, qui vont t'envoyer d'excellents témoignages, et c'est comme ça que tu fais décoller ton activité, ouais.
Et même sur témoignage, avoir des retours intéressants des gens, c'est génial, je trouve.
Ah bah oui.
J'ai des emails quasiment, je dirais au moins plusieurs par semaine, tous les 2-3 jours, j'ai des emails de personnes qui m'écoutent, qui rebondissent, qui veulent des échanges téléphoniques.
Ouais.
Et c'est ultra enrichissant, je trouve ça génial en fait.
Ah bah c'est un feedback direct du contenu que tu donnes et c'est ultra motivant. Parce qu'effectivement, c'est pas motivant si t'envoies par exemple un mail par jour. Pareil, je suis un grand fan des mails quotidiens. C'est une stratégie que je recommande souvent d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est ultra gratifiant quand t'envoies un mail et que tu reçois 3, 4, 5 retours de personnes qui disent juste merci ou ça a marché, c'est trop bien. Merci vraiment pour ce que tu fais. C'est super gratifiant et ça te donne envie de continuer de travailler. Et on travaille justement pour ça.
C'est une bonne dose de sérotonine qui arrive. Ça, ça
ah, totalement.
Bien. Ouais. Ça bien. Et l'email quotidien, j'ai commencé, mais j'ai arrêté de mon côté. Tu vois, ça me prenait beaucoup trop de temps et en fait, ça m'empêchait de lire et de me former.
Ouais.
Donc, dans la balance, j'ai privilégié la formation continue à l'email quotidien, au final, tu vois.
Ouais.
Parce que podcast, email, etc., c'est quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on le dit pas assez souvent, mais on travaille, mine de rien, beaucoup plus qu'en tant que salarié. En tout cas, bah, moi, c'est mon cas, en tout cas.
Ouais.
Parce que constamment au travail, tu lis un livre, c'est du travail en soi.
Ouais.
Parce que le livre que je lis va servir à alimenter mes podcasts et mes formations.
Ouais.
Donc en fait, la frontière entre le travail et le plaisir aussi est un peu effacée. Donc ça, c'est génial. Mon travail, beaucoup. Moi, je travaille le week-end, le soir, très tôt le matin.
Ouais.
Je pense que toi aussi, potentiellement.
Bah souvent, quand on est... je faisais beaucoup avant, là, j'essaie de ne pas travailler ou alors juste un peu le week-end pour équilibrer vie pro et vie perso. Mais souvent, de toute façon, quand t'es en phase de décollage, c'est quasiment obligatoire de travailler, y compris les week-ends, pour faire décoller ton activité. Parce que t'as beaucoup de choses à faire. Il faut que t'apprennes, il faut que tu te formes, il faut que tu expérimentes, il faut que tu parles avec tes clients, faut que tu t'occupes de l'administratif, faut que tu t'intéresses à plein de choses. Et tout ça, ça prend du temps. Et faire tout ça en restant à 35 heures par semaine, quand tu débutes, j'y crois pas trop, quoi.
Moi non plus, moi non plus. Et c'est là qu'on vient à la dissonance entre le monde du travail et puis le monde entrepreneurial. Dire à des personnes qu'on travaille le week-end ou le soir, les gens, des fois, ont mal à intellectualiser. Et ça crée un peu justement des conflits par rapport à ça, par rapport à des amis, on sort ce week-end, bah non, j'ai du boulot malheureusement, je dois travailler, je dois faire avancer les choses.
Ouais.
Et ça crée à nouveau ce conflit et cet éloignement entre les anciens amis malheureusement et puis les nouveaux qui, eux, comprennent la démarche.
Oui, et je pense que c'est ouais, je pense que c'est, je sais pas si ça se passe comme ça avec tout le monde, mais ouais, je sais que quand j'ai fait le switch, j'ai fait aussi un switch de cercle social, parce qu'il y avait des personnes qui comprenaient pas, qui étaient, on avait l'impression qu'ils étaient incapables aussi de comprendre, qu'ils s'intéressaient pas forcément à ça, et du coup, ouais, il y a une petite épuration qui se fait dans le cercle social, mais après, c'est nécessaire. Il y a des personnes, tu vas leur expliquer ton projet, il y en a qui vont t'encourager, il y en a qui vont s'en foutre, et il y en a qui comprendront pas, et donc il faut faire le tri là-dessus, ou leur expliquer également ton mode de fonctionnement, par exemple, ça je pense qu'on va pouvoir en parler aussi. Je sais qu'un truc qui m'a beaucoup aidé à monter mon activité, alors je ne le savais pas à l'époque, et en fait c'est en écoutant ton contenu que j'ai compris que ça venait de là, c'est en optimisant ton travail par rapport à ton chronotype. Moi j'ai un chronotype loup, donc c'est-à-dire que je me lève tard et je me couche tard aussi, et en fait je suis plus productif la nuit. Et en fait avoir ce chronotype, ça a été un avantage pour moi. Parce que du coup, je pouvais bosser quand j'étais dans l'avion à 21h ou à 22h ou des choses comme ça. Des choses que je faisais avec aisance, qui me demandaient pas d'effort. Alors que d'autres qui étaient chronotype, je crois c'est Lyon, le lefto, eux ils y arrivent pas forcément, tu vois. Eux, ils sont du matin, donc eux, par exemple, s'ils veulent monter un projet, il vaut peut-être mieux qu'ils se lèvent à 5h du matin et que de 5h à 7h30, 8h, ils travaillent sur leur projet avant d'aller à leur travail.
Très clairement, c'est ce que j'ai fait durant des années, hein. Justement, travailler le matin très tôt parce que ça me correspondait. Ça, puis le sport aussi, bien évidemment.
Toi, c'est quand ton chronotype, Lyon?
Moi, justement, je suis Lyon, ouais. Je suis Lyon à 100%. En tout cas, avant d'avoir un enfant.
Ouais. Là, ah, bah oui, les enfants. Changé.
Là, je suis en dette de sommeil depuis un an, donc c'est encore différent, voilà. C'est encore différent. J'ai encore les séquelles de un an sans dormir. À cause, façon de parler. C'est pas réellement de sa faute, mais peu importe, passons. Mais oui, moi, je suis Lyon de base. Effectivement, tu me dis de travailler, passer les 21h. J'essaye.
Ouais.
J'essaye uniquement, en fait. Je ne fais rien. Je suis littéralement ralenti. Je ne peux pas m'empêcher d'aller sur YouTube, mettre des vidéos en fond, ce qui ralentit ma productivité. Je ne peux pas être efficace. Contrairement au matin où là, clairement, je peux, toi, ce matin, j'ai fait des modules de formation, j'ai écrit des textes et tout.
Ouais.
En 4 heures de temps, j'ai fait mon sport. Là, je suis efficace.
Ouais.
Je sais que passer les 20h, 21h, c'est même plus la peine. À part faire vraiment compléter un journal, etc., ou des stats, là oui. Mais
ouais.
Tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est créatif, tout ce qui en a un peu de cognition, c'est même plus la peine. Je suis plus là. Mais effectivement, connaître ce chronotype est très important et malheureusement, les entreprises ne sont pas adaptées en fonction du chronotype des gens. Google oui. le fait, Apple le fait, mais pas tout le monde. Et une personne comme toi, sur un métier normal précédemment, non pas un métier qui exigeait des, beaucoup d'avions notamment, t'aurais pas pu vraiment être efficace au travail. C'est triste ouais. à dire. Hein. Mais le matin, 8h midi, tu n'aurais pas été là, très clairement, au niveau mental, je parle, et te recommencer à être en forme à partir de 17h.
Ouais, c'est
ça. Les 17h, c'est cool, il te reste 1h, voire 2h de boulot après. Et là, t'es pas efficace. Et c'est terrible. Et ces gens-là, souvent, sont blâmés, alors qu'au final, c'est plus l'entreprise qui est à blâmer que ces personnes-là. Mais là, pour faire comprendre ça, c'est devant un changement complet de société et c'est assez compliqué.
Ouais. Et oui, et effectivement, je me rappelle quand, surtout quand j'avais fait mes, quand j'avais fait mes armes dans la toute première entreprise où j'étais, bah, il y en avait beaucoup qui étaient en mode, on va dire, chronotype Lyon, c'est-à-dire qu'ils encourageaient les personnes à venir à 7h, 7h30 du matin. Oh putain, il y a quelqu'un qui sonne, je reviens.
Vas-y. Les aléas du direct, on va dire, donc on va attendre quelques petites secondes, le temps que Mike revienne. En tout cas, j'espère que ça vous plaît comme échange, ça change un peu des neurosciences. On parle plus entrepreneuriat, je pense que ça peut intéresser certaines personnes parmi vous. Et là, je l'entends
bien. Désolé, Jérémy, il arrêtait pas de sonner.
Pas de souci, j'ai meublé entre temps.
Ok.
Ne t'en fais pas. Tu parlais un peu des chronotypes et des difficultés que tu avais par rapport à ta première société dans laquelle tu étais.
Oui, et puis après ça s'est vérifié aussi, hein, c'est-à-dire que quasiment toutes les boîtes que j'ai fait dans ma carrière encourageaient à se lever tôt. Et alors j'avais toujours l'impression qu'effectivement que tout le monde était des lève-tôt. Et moi, je me sentais tout le temps en déphasage parce que ouais, j'en avais, ils se levaient quand on était en déplacement, par exemple, truc très bête. Le petit déjeuner commençait à 6h30. Bah les mecs à 6h30, ils étaient au petit déj et ils y allaient. Et puis après ils allaient travailler dans leur chambre avant d'aller en réunion. Et les mecs ils me disaient ouais viens manger avec nous et tout. Je leur dis mais à 6h30 mais vous êtes maso. C'est je vais pas me lever à 6h30. Alors que bah moi je me levais plutôt à je préfère me lever à 8h30 par exemple 8h30. Et par contre, eux, à 17h, 18h, ils étaient fatigués, mais moi, 17h, 18h, c'est l'heure où je commence à bien carburer, tu vois.
Mmh. Non, mais complètement. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens, donc, comme moi, parce que je suis un lion, moi aussi, ne conçoivent pas le fait que vous ne pouviez pas, vous, les loups, avant de connaître ça, bien évidemment, hein, vous levez tôt. On prend ça pour de la fainéantise, très clairement. C'est méchant à dire, mais c'est la vérité.
Ouais.
Et ça, c'est lié au fait également que la société pousse aujourd'hui les gens à être matinal, on parle de morning routine, etc. Et les gens qui ne sont pas comme ça sont exclus en quelque sorte, sont mal vus en tout cas.
Ouais. Et on peut se.
Ça, c'est assez terrible.
Je l'ai déjà fait pour m'aligner, surtout dans ma première entreprise, pour entre guillemets, pour pas être exclu et pour être bien vu. Donc je me forçais à me lever tôt le matin, mais il y avait rien à faire. J'avais toujours cette impression d'être dans les vapes le matin, mais tout le temps. Même en prenant l'habitude, quand je me levais très tôt, j'étais systématiquement dans les vapes.
Non, mais c'est entièrement normal, ton niveau de cortisol est pas encore monté, ta mélatonine est encore là et
c'est ça.
Physiologiquement tu peux pas.
C'est
aussi simple que ça, physiologiquement tu n'es pas capable de le faire. Comme moi, le soir je peux pas veiller.
Ouais.
Et ça c'est terrible en société parce que passé 22h je m'écroule à table. Je suis un zombie, j'écoute à moitié et je réponds plus, tu vois.
Alors que 22h ça...
Les avantages et les inconvénients.
Ça va, 22h c'est marrant parce que c'est là où j'ai un bon pic de productivité, des fois je peux bosser jusqu'à minuit sans aucun problème quoi.
Minuit, moi je suis à moitié avachi et mourant.
Ah ouais, ouais.
Je suis mieux dans mon lit à partir de 22h, je lis tranquillement un peu de non-fiction, après je dors et le lendemain je suis très tôt et je bouquine à nouveau. Toi. Forcément, c'est ça, quand on a ça à l'esprit, on revoit réellement sa grille d'analyse des autres personnes. On
ouais.
comprend pourquoi les gens se viennent plus tard ou ont du mal le matin. Mais tant que ce ne sera pas démocratisé, il y aura toujours cette dissonance entre le côté physiologique et puis ce que nous impose la société, façon de parler.
Ouais, c'est vrai.
C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aussi parce que je m'adresse aussi à des managers. En tout cas, une bonne partie de mon audience font du management et c'est intéressant par rapport à leurs équipes aussi. Parce qu'au moins, comme ça, tu comprends les gens dans ton équipe et tu peux pas imposer à un loup d'être efficace le matin. Et quand tu le comprends, ça change tout. Et même au niveau du climat social, au niveau de l'ambiance, au niveau de tout, vraiment, ça change tout de A à Z. Et souvent, on me l'a dit, on m'a fait un retour par rapport à ça et ça aide les gens.
Ouais.
Plus que eux-mêmes, ça change le groupe complètement.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Donc, ouais. On devrait l'enseigner à l'école. Mais bon,
encore faut-il connaître le sujet, parce qu'avant de l'entendre sur ton podcast, on n'en a jamais parlé avant. Jamais personne n'a
oui,
parlé
c'est
de
vrai,
ça.
C'est pas démocratisé. Autant ils en parlent un peu aux États-Unis, pas encore, ça c'est marginal. À Google, forcément, ils en parlent parce qu'ils sont pas à la pointe par rapport à tout ça. Mais très peu de personnes en parlent.
Ouais.
Comme le sommeil de façon générale, j'ai envie de dire. Hein.
Ouais.
Le sommeil est très mal vu aujourd'hui, alors que pourtant dormir, c'est une obligation.
Oui, c'est vrai.
Alors, dormir est plus nécessaire pour nous que boire et manger.
Oui.
Tu tiens pas trois nuits sans dormir, tu meurs en fait. C'est simple, tu meurs. Alors tu peux tenir une semaine sans boire
et pas s'endormir. C'est une torture d'ailleurs, le fait de pas dormir, c'est une torture.
Je te donne un exemple qui m'était arrivé dans ma toute première entreprise. C'est un exemple que je donne souvent pour expliquer que faire des heures à rallonge ne sert absolument à rien, et voire même, je crois qu'il y a une loi pour ça, je sais plus laquelle c'est. C'est-à-dire que...
Oui, c'est oui.
Pardon ?
J'ai plus en tête non plus, mais je sais plus si c'est pas Parkinson, oui. L'efficacité décroît selon
ton travail. C'est passé un certain temps, ton efficacité décroît et peut même devenir négative. Et l'exemple, c'est le suivant, c'était une semaine avant de faire la réception d'un équipement électronique à un client. Et on avait un problème, c'est-à-dire on avait un coffret électronique qui tombait en panne, on savait pas pourquoi. Ça a commencé début d'après-midi et on est resté jusqu'à 20h, même un peu plus tard je crois, le soir pour essayer de le débugger parce que c'était urgent. Sauf que le soir, on était tous fatigués et en fait, on n'arrivait pas à réfléchir. Mais il y avait les chefs qui étaient derrière parce que c'était un projet important, donc on pouvait pas rentrer chez nous comme ça parce qu'on allait être mal vu. Donc du coup, on s'est vraiment forcé à rester tard et puis on n'y arrivait pas. Et du coup, on est rentré chez soi après. Et ben devine ce qui s'est passé le lendemain.
Ben, le lendemain, tout a été nickel. En une demi-heure, c'était réglé.
Voilà.
Après une nuit de sommeil.
Il y a une nuit de sommeil. On arrive et c'est en moins d'une demi-heure. On a trouvé le truc. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était une connerie. C'était un truc comme le bouton sur au milieu de la figure, et on l'a pas vu. À tel point, on s'est dit putain, mais pourquoi on l'a pas vu hier, quoi. C'était tellement évident. Et en fait, on a passé des heures et des heures à chercher. Mais comme on n'était pas dans un état optimal de productivité, on n'a pas trouvé. Et le lendemain, une fois que t'es frais, en une demi-heure, t'as trouvé. Le problème est réglé.
Et ça, couplé au fait que durant la nuit, le sommeil fait des associations d'idées aussi.
Oui aussi.
Le cerveau fait des sessions d'idées. Ouais.
Il y a aussi
coup,
ça.
Forcément,
je pense que ça
parce que tu prends un peu de recul, t'analyses et tu couples des idées qui à la base, quand t'es veillé, n'ont pas de lien entre elles, mais qu'une fois le sommeil, une fois qu'il agit, crée un sens entre ces idées-là et justement donne une solution.
Ouais.
Et souvent on dit que la nuit porte conseil et c'est la vérité. La nuit porte conseil réellement et physiologiquement aussi.
Ah totalement. Et ça du coup c'est un truc que je fais aussi dans mes activités, c'est-à-dire quand j'arrive pas par exemple à écrire, parce que moi je fais du mail quotidien. Quand malgré mes efforts j'arrive pas à écrire un mail, je me force pas à l'écrire, je vais le mettre de côté, je vais dire ok, mon cerveau il veut pas parce que il est pas en forme, pas fatigué, etc. Je mets la tâche de côté et je la remets au lendemain, et puis ensuite le lendemain c'est la première tâche par laquelle je commence, et après ton cerveau il ait fait sa gymnastique nocturne, et l'inspiration elle arrive tout de suite et tu sais exactement quoi faire, et au lieu de t'acharner à écrire un contenu qui va être moyen pendant une heure, en fait tu l'écris en un quart d'heure et le contenu il est exactement comme tu voudrais être, c'est-à-dire au top niveau, quoi.
D'où l'importance des siestes également, qui ont ce bénéfice là aussi.
Oui aussi,
moi j'en fais tous les jours quasiment, tu vois, et ça me change véritablement la vie. Après, j'ai un rythme qui me le permet aussi, donc forcément, je suis privilégié par rapport à ça.
Ouais.
Mais dès que j'en fais, ça me change la vie, en tout cas. Bah, plutôt, dès que j'en fais pas, je vois la différence, plutôt, parce que j'en fais quasiment tous les jours, encore une fois.
Et en termes de créativité et de productivité, tu vois la différence, ouais.
Complètement, mais complètement à 100%.
D'accord.
En fait, je n'ai pas ce passage à vide du début d'après-midi.
Ouais.
Dès que je me réveille, ça va mieux, toi. Okay. J'ai pas cette une à deux heures de latence où je suis dans le gaz et où je suis un peu végétatif à regarder des vidéos, façon de parler. Je suis des formations.
Ouais.
Mais c'est pas productif comme travail.
Ouais.
Alors qu'après une sieste, je suis efficace d'entrée de jeu, tu vois.
Ouais.
Après, voilà, la sieste, c'est encore un autre sujet qui n'est pas spécialement implémenté en entreprise non plus.
C'est un sujet tabou.
L'entreprise depuis tout à l'heure, mais c'est tabou parce qu'une fois, une personne qui fait une sieste, c'est un feignant.
On a encore cette notion-là que le sommeil et branleur, le fait d'arriver tard,
c'est terrible. C'est terrible. Et c'est vrai que cette notion-là de répondre à nos besoins physionomiques, aujourd'hui, c'est très mal vu.
Ouais.
En fait, il faut être un surhomme. Un surhomme, ça dort pas, ça reste tout le temps et ça bosse tout le temps.
C'est ça.
Non, désolé, mais non, en fait, t'es pas efficace comme ça et t'es pas productif comme ça non plus et pas créatif non plus comme ça, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Une chose également que je voulais aborder avec toi, c'est la notion de productivité parce que t'as mené un business, du coup, en parallèle du tien,
oui.
Qui était déjà assez prenant, j'ai l'impression.
Oui.
Comment t'as fait pour essayer de coupler les deux, même les trois d'ailleurs, parce que business, donc personnel, entreprise et vie personnelle aussi.
Oui.
Comment t'as fait pour gérer ton temps durant ce laps de temps qui a duré quand même quelques années pour justement faire matcher tout ça? Des solutions, des pistes, des idées?
Ouais, bah effectivement, c'est vrai que quand je raconte un peu mon parcours à d'autres personnes, tout le monde se demande comment j'ai fait en se disant mais arrête, mais c'est pas possible, etc., etc. En fait, c'est extrêmement simple et une première méthode que je peux donner pour ça, c'est tout simplement de compartimenter son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour ta vie perso. Il y a un temps pour bosser sur ton projet en parallèle et il y a un temps pour exercer ton métier en CDI. Et moi, je compartimentais ce temps-là, justement. C'est-à-dire, par exemple, le week-end, j'étais connecté complètement parce que à l'époque, j'étais en couple avec une personne qui habitait à 100 km de Paris, donc du coup, j'allais la voir tous les week-ends. Et du coup, tous les week-ends, j'étais en mode coupure, c'est-à-dire, je bossais pas pendant 2 jours. Ensuite, les 5 jours de la semaine, la plupart du temps, j'étais en mode, je travaille, je fais mon travail d'ingénieur. Et par contre, ce que je faisais, c'est je ne cherchais pas à avoir l'air occupé ou à m'inventer des tâches. Ça, c'est pareil, deuxième conseil que je peux donner, c'est d'arrêter de vous inventer des tâches. C'est-à-dire que pour monter un projet en parallèle de son CDI, quand on cherche à optimiser son temps, on se rend compte qu'il y a des tâches indispensables et il y a des tâches secondaires qui n'ont pas d'impact sur sa carrière. Donc du coup, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis concentré sur les tâches qui allaient me rendre visible auprès de ma hiérarchie et qui allaient rendre mon travail utile. Je me concentrais sur ça. Et tout ce qu'il y avait à côté, soit je le déléguais ou soit je le faisais pas. Et en fait, quand je faisais ça, je me retrouvais avec pas mal de temps libre, à la fois quand j'étais au travail, ce qui me permettait aussi par exemple, pour écrire des mails, je pouvais le faire depuis mon travail directement, ou alors de partir plus tôt de mon travail. Et paradoxalement, ça te fait rire, Jérémy, mais le pire, c'est qu'en faisant ça, j'étais dans le plus 15% des employés les plus performants de la boîte. Alors qu'en fait, je travaillais moins que 35 heures par semaine au travail. Il y avait des mecs, ils bossaient 50 heures par semaine, ils envoyaient 200 mails par jour, ils faisaient plein 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 de trucs. Moi, au lieu de faire ça, parce que c'était un rythme que je pouvais pas suivre pour monter un projet en parallèle, je me suis vraiment focalisé sur le nécessaire, le strict nécessaire, et le reste, je ne le fais pas, tout simplement. Et ben en fait, ça m'a pas empêché d'avoir un travail visible par tout le monde, et donc d'être bien noté à la fin de l'année, d'avoir des très bons résultats. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont la croyance limitante que pour avoir une grosse augmentation, qu'il faut produire beaucoup de choses, c'est totalement faux. Et donc j'ai tout simplement fait ces deux combinaisons, donc le compartimentage du temps plus la réduction des tâches de mon travail de CDI au strict nécessaire. À partir de là, t'as beaucoup de temps libre finalement. Et ce temps libre, tu peux l'allouer à ton side project que tu veux monter en parallèle. Pour ça aussi, troisième chose que je rappelle qui est très important, qui a joué contre moi d'ailleurs après. C'est la loi de Parkinson. Pour ceux qui connaissent pas la loi de Parkinson, c'est une loi qui dit que une tâche prend autant de temps à être exécutée que le temps que vous lui avez alloué. C'est-à-dire si par exemple vous dites, je me donne 1 heure pour tourner une vidéo, vous allez mettre 1 heure à tourner la vidéo. Si vous vous dites, je vais mettre 1 semaine à tourner la vidéo, vous allez aussi mettre 1 semaine. Donc en fait, comme je compartimentais mon temps, je m'imposais des deadlines assez sévères pour faire telle ou telle tâche. Ce qui faisait que, en étant contraint, par la simple application de la loi de Parkinson, j'arrivais à les faire. Et aussi, comme j'avais un temps limité, je me focalisais sur les tâches qui étaient vraiment importantes. Et ça, je le disais tout à l'heure, c'est un problème qui s'est retourné contre moi, puisque ensuite, quand je suis passé full entrepreneur, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un nouveau problème. Application à la loi Parkinson, mes tâches ont commencé à prendre plus de temps que d'habitude. Et surtout, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'inventer des tâches, à me rajouter des projets pour combler justement le temps libre que j'arrivais à me dégager. Donc, très très puissant aussi la loi de Parkinson pour la productivité. Ça, c'est un truc très très vrai dans le monde du travail, ça.
Effectivement, et c'est qu'une chose importante que tu as dite, c'est le fait de se concentrer, je pense, essentiellement sur sa fiche de poste. C'est qu'on va dire, mais les gens en fait font beaucoup de tâches qui ne sont pas, pardon, dans la fiche de poste, et souvent tu perds du temps à cause de ça. Si tu te concentres à 100% sur ta fiche de poste, tu fais uniquement les choses sur lesquelles tu es attendu toi, des gens ne peuvent rien te dire, parce que factuellement tu es engagé à faire ça, et tu vas te concentrer sur ce qui apporte le plus de valeur à toi et à ton entreprise, sans te disperser sur d'autres choses qui n'apportent rien au final. Et donc tu gagnes du temps factuellement. Donc, je résume un peu ce que tu m'as dit très clairement, mais cette notion de fiche de poste est assez importante à avoir à l'esprit, je pense.
T'as ça et t'as les pendant les réunions aussi. Moi, je dis souvent ça à des collègues. Je dis toujours que à l'entretien de l'année, on va pas vous donner plus 3% d'augmentation parce que vous avez participé à 200 réunions dans l'année. Et ça, c'est un peu une maladie française qu'on a, c'est ce qu'on appelle la réunionnite, c'est-à-dire d'être tout le temps en réunion. Le problème des réunions, c'est que quand on est en réunion, on ne produit rien. On est assis dans une salle, enfermé avec d'autres collègues, à faire des débats sans fin pendant des heures. Et pendant ce temps-là, ok, on a l'impression d'être utile, mais en fait, on ne produit rien. Donc, quand on est en réunion, vous ne produisez rien. Donc, faut faire attention à ça. Et se rappeler que votre chef, il va vous évaluer sur votre production. Il va pas vous évaluer sur est-ce que vous êtes bien allé à telle réunion chaque semaine, est-ce que vous avez fait vos 200 réunions de quota chaque année. On n'est jamais noté sur ça, on est noté sur la production.
Et les réunions sont souvent au final qu'une petite bataille d'ego, ni plus ni moins, quand on regarde bien.
Ouais,
c'est moi qui ai la meilleure idée, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, comment on avance sur mon projet. C'est jamais réellement effectivement productif à la fin.
Ouais, rarement, c'est beaucoup pour se montrer effectivement. J'avais toujours cette impression que certains collègues y allaient pour entre guillemets faire le pan et montrer qu'ils sont là et montrer qu'ils sont compétents, mais ça faisait pas forcément avancer le projet quoi.
Très clairement, très clairement. Et du coup, c'est vrai que ces conseils-là sont parfaitement applicables par n'importe qui, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat tous les deux, parce qu'on est un peu concerné par ce domaine-là. Mais une personne qui veut gagner du temps sur sa vie professionnelle peut aussi les appliquer très clairement, sans pour autant avoir de vocation à se lancer à 100% sur un projet. Ça peut être pour des passions, pour voir un peu plus sa famille, ou même pour être plus tranquille, tout simplement. Parce que le travail, c'est une source de cortisol assez énorme, et on peut partir, encore une fois, on l'a parlé tout à l'heure, sur des dépressions ou autres, si on est surchargé.
Ouais,
autant prévenir.
Bah là, il y a une collègue avec qui je discute souvent qui a ce problème-là justement, c'est-à-dire que elle est en surcharge chronique de travail, et elle en souffre hein, parce qu'elle est tout le temps en train de bader, elle est pas bien, elle est stressée, etc. Et elle s'appelle Émilie, peut-être qu'elle écoutera ce podcast, je lui passe le bonjour. Et à chaque fois, je lui dis, t'as mais Émilie, tu vas pas avoir plus 20% d'augmentation à l'année. Ça sert à rien de faire du 50 heures par semaine.
50 heures dont bien 30 heures sont malheureusement inutiles et ne correspondent pas à sa fiche de poste encore une fois.
Ouais, et puis je le vois dans sa façon de travailler, c'est-à-dire elle est tout le temps à droite à gauche, elle est tout le temps elle est tout le temps interrompue. Donc au final, elle a pas le temps de produire et ça elle s'en rend compte mais elle a du mal à en sortir. À chaque fois je lui dis mais fais gaffe parce que si tu essaies de tout faire, tu vas rien faire de bien, donc tu vas te faire allumer à l'entretien annuel. Mais en plus, enfin c'est dangereux, tu peux aller vers le burn-out quoi.
Mais du coup, pour tout lier ensemble, c'est là que c'est important de connaître son chronotype. Parce qu'on peut dire à son entreprise, à son chef, à ses équipes, peu importe, que durant telle période, en fait, il faut pas me déranger. Là, je suis efficace.
Ah,
et durant
ça dépend du chef.
On fait toutes les tâches sur lesquelles justement on est efficace. Ça dépend du chef, bien évidemment, mais ouais. Si on peut l'amener, c'est intéressant. Si la personne est ouverte, si la personne est compréhensible. Après, si on amène ça sur le prisme de la performance, logiquement, il devrait l'entendre. En tout cas, on fait un test. Laissez-moi pendant une semaine respecter mes horaires. Après, on fait un bilan à la fin. Au moins, il y a du factuel derrière.
Ouais.
Je pense que c'est important à mettre en place si c'est possible, mais encore une fois, bien évidemment, toutes les entreprises ne le permettent pas.
Je pense que ça vaut le coup de tenter, que chaque personne devrait tenter au moins une fois, mais après, ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise, quoi. Ça dépend vraiment de son ouverture à ça, quoi.
Et le secteur aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'intérim, notamment, donc, j'étais responsable recrutement. Et là-bas, l'intérim, en fait, t'as sans cesse des intérimaires qui viennent, des clients qui t'appellent. Et vu que c'est un métier qui est d'urgence, tu peux pas, tout simplement. Malheureusement, tu ne peux pas. Ouais. C'est comme, justement, les hôpitaux. Tu peux pas dire, bah, désolé, là, c'est pas mon chronotype, je travaille pas. Bah, non. Malheureusement,
oui,
t'as
du
travail,
ça, vrai, ouais.
T'as signé pour et tu dois y aller. Donc, effectivement, toutes les sociétés s'y prêtent pas. Mais quand on est en service, en général, de façon, on va dire, à 90% des cas, on peut tenter en quelle expérience. Et je pense qu'il faut le faire au moins une fois.
Ouais.
Et peut-être profiter des fêtes de fin d'année parce qu'on y est, très clairement, on est en décembre. Ça va être un peu plus calme, logiquement, pour tout le monde, comme on était. Autant essayer durant cette période-là.
Oui, effectivement, ouais.
Et voir si ça match ou pas. C'est l'occasion jamais de ménager un peu les avantages et les désavantages de la méthode.
Ouais, on peut aussi, suivant si le métier l'autorise, changer de créneau horaire. Je te donne un exemple. Quand j'avais 20 ans, j'ai travaillé pendant un mois au McDonald's. Et c'est là que je m'en étais rendu compte, mais sans pouvoir poser des mots dessus, qu'en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise pour travailler le soir chez McDo que le matin. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite. Et du coup, j'ai demandé à ma hiérarchie si je pouvais être plutôt du service du soir que du matin. Et du coup, ça a pu se faire. Et c'est comme ça que je suis passé d'un service qui était désagréable pour moi le matin. Enfin, vraiment, je travaillais dans les vapes, c'était horrible, à un service où... j'arrivais par exemple à 18h, on faisait 18h-23h, tu vois. Et là, je m'éclatais parce que j'étais à l'aise, j'étais parfaitement opérationnel, j'étais réveillé et j'étais fluide. Et ça, c'est des réajustements qui sont possibles suivant les métiers que font les gens.
Bien évidemment, ouais. Encore une fois, il faut avoir cette chance-là ou changer l'entreprise.
Oui, ou changer d'entreprise, ça se fait aussi.
C'est encore autre chose, mais c'est une possibilité, ouais.
Oui.
C'est une possibilité, c'est quitter l'entreprise. Et puis, si jamais on est débauché, c'est encore mieux parce qu'on peut potentiellement imposer deux, trois choses.
Ouais, parce que
Donc, c'est
malheureusement,
encore un autre sujet.
là, on peut toujours demander à son boss, etc., mais on ne peut pas changer la culture de l'entreprise. La culture en entreprise, je dis souvent ça, c'est tu l'aimes ou tu la quittes. Tu ne peux pas la changer. Et si tu es dans une entreprise dont la culture est en conflit avec ton chronotype et que ça te rend malheureux, dans ces cas-là, il vaut mieux envisager de changer d'entreprise plutôt que d'y rester.
Il ne faut pas persévérer, effectivement. Oui, c'est un biais cognitif qui existe. Il ne faut pas persévérer là où on est mal. On ne pourra pas faire changer les choses, malheureusement, comme tu le dis. Pas à notre échelle individuelle. Donc, autant quitter le navire le plus tôt possible avant qu'il nous fasse couler.
Oui, tout à fait.
Pour terminer le podcast, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle ensemble, déjà. Le temps passe vite. Est-ce que tu as un autre conseil de productivité à donner aux personnes qui peuvent nous écouter actuellement? Donc, potentiellement, les personnes qui sont salariées, qui veulent rester salariées, ou celles qui veulent potentiellement faire un side project et se lancer à leur compte d'ici quelques semaines, mois ou années.
Le conseil que je donne souvent, c'est une loi que tout le monde connaît mais que personne n'applique, c'est la loi de Pareto, la loi des 20-80, donc la loi qui dit que 20% des causes font 80% de résultats. On peut l'appliquer à la fois dans son travail et à la fois dans la boîte, dans le set projet qu'on est en train de monter. C'est-à-dire d'aller chercher les 20% de tâches que vous allez faire qui vont, comment dire, qui vont apporter 80% du résultat. Je te prends un exemple très concret que je vois très souvent avec les personnes que je connais qui montent un side project. Combien de fois j'ai vu des personnes passer des heures à se prendre la tête sur le logo de leur boîte? Si, je crois que j'ai vu systématiquement,
Je
c'est-à-dire
l'ai eu
des
fait.
personnes qui passent des heures et des heures et des heures à choisir le logo, la couleur, le texte, etc., etc. Et à chaque fois, je leur dis la même chose. Je leur dis, le temps que tu passes à peaufiner ton logo, c'est du temps que tu ne passes pas à trouver des clients. Et c'est ça, la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'au lieu de passer des heures à peaufiner ton logo et sachant que ton logo, je vais être cru, mais les gens n'ont rien à foutre, hein, dans la plupart des cas, plutôt que de passer du temps à faire ça, bah, passer le même temps à aller chercher un client et à lui apporter un service et être payé pour ça, va te rapporter beaucoup plus de choses. Parce que, évidemment, ça va te permettre de gagner ta vie, mais aussi, ça va te permettre de mieux connaître ton client, de mieux connaître sa psychologie, de connaître ses besoins, de savoir ce qu'il veut, de savoir ce que tu peux lui apporter. Et ce temps-là que tu vas passer à ton client, il sera 1 milliard de fois plus intéressant que de passer des heures et des heures sur un logo. Et ça, c'est un conseil très simple, la loi de Pareto, mais on peut l'appliquer partout. Donc, par exemple, dans un set projet, les exemples de tâches qui servent à rien, voilà, c'est passer des heures sur les logos, passer des heures à faire un site internet ergonomique, etc., etc. Je dis même souvent ça, parce que ça, c'est une croyance limitante qu'ont beaucoup des gens. On peut monter un set projet sans site internet. Aujourd'hui, c'est possible. C'était peut-être pas possible il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on vit dans une époque où tu peux gagner ta vie avec un compte Facebook. J'ai des personnes que je connais qui font ça, qui n'ont aucun site web, qui font que du mailing et du Facebook, et ce qui ne leur coûte rien finalement parce qu'ils ont très peu de frais fixes comme ça, et ils arrivent à trouver plein de clients comme ça. Et c'est ça en fait la loi de Pareto.
D'accord, très bien. Et pour toi, c'est applicable facilement en entreprise. En tout cas, pour moi, ça l'est plus en entreprise qu'en entrepreneuriat.
Bah,
Encore une fois, on
l'entreprise,
revient à
c'est
la fiche de
pareil.
poste où c'est du 80-20 à la fiche de poste.
L'entreprise, c'est exactement pareil. Quand je te parlais de mes méthodes pour gagner du temps, c'est chaque personne qui écoute ce podcast, je leur donne ce conseil. Regardez objectivement les missions, les tâches qui sont les vôtres, et essayez d'identifier les 20% de missions, de responsabilités ou de résultats qui sont attendus de votre part, qui vont faire 80% de votre visibilité, de vos résultats. Et donc de votre entretien annuel, puisque pendant l'entretien annuel, votre chef, c'est ça qu'il va regarder. Il va regarder ce que vous avez produit, il va regarder les résultats qui sont plus visibles, et il va aussi regarder ce que disent vos collègues et vos autres responsables hiérarchiques si vous travaillez sur plusieurs projets, par exemple. Et pour le faire, bah ça, c'est la loi de Pareto. Il y a 20% de ce que vous faites qui va faire 80% du résultat. Et ça, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a 3 ans. Et ça a changé ma vie parce que quand j'ai fait ça, j'ai divisé mon temps de travail par deux tout en ayant une rémunération supérieure. C'est complètement inavouable comme truc. Là, ce que je suis en train de te dire, Jérémy, je l'ai jamais raconté à aucun de mes collègues de travail. Hein. J'ai toujours dit à des entrepreneurs ou quoi parce que ce sont les seules personnes qui peuvent comprendre ça. Si je disais ça à l'entreprise où je travaillais avant, mais je me faisais fusiller sur la place publique. C'est un truc inavouable, mais pourtant c'est vrai. Je travaillais deux fois moins que les autres, mais j'étais beaucoup plus visible et j'avais plus de résultats. Et donc au final, j'étais dans les top performances de l'équipe.
C'est de l'efficacité.
C'est ça. Efficacité. À tel point que d'ailleurs, à le dernier entretien annuel, un peu avant que je parte, on m'avait proposé un poste au-dessus, tu vois, un gros poste en plus. Et alors qu'il y a plein de personnes qui travaillent plus que moi qui étaient aptes aussi, mais c'est à moi qu'on l'a proposé.
Et du coup, question que je t'ai pas encore posée, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat au final? Si t'avais une belle carrière, un beau poste, des voyages en avion,
Bah comme je
un
t'avais
super
dit,
responsable.
en fait comme je t'avais dit déjà avec le Covid, voyage en avion c'est fini. Donc ça déjà
Oui,
c'est.
genre hors Covid, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... Parce que du coup, t'as commencé avant le Covid à vouloir te lancer.
Oui, j'ai déjà commencé hors Covid, parce que quelque part je commençais un peu à m'ennuyer avec mon poste précédent, c'est-à-dire que c'était sympa, j'avais des trucs intéressants, mais je m'ennuyais un petit peu, ça c'était la première chose. Et puis ensuite la deuxième chose, c'est la notion de plafond de verre. C'est malheureusement un truc qui est très vrai en France, c'est que ta carrière est globalement déterminée par rapport au diplôme et à l'école que tu as fait, et à partir de là. Même si tu bosses pas beaucoup, ça va le faire, ça va aller. Le problème, c'est que ça me convient pas parce que je suis quelqu'un qui a le goût du travail, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, c'est-à-dire je crois beaucoup à la méritocratie. Et malheureusement, le système français est fait pour ne pas encourager la méritocratie. C'est-à-dire que tu peux travailler, comme je le disais, 50 heures par semaine et faire 1 milliard de trucs, tu vas être limité par le plafond de verre du salariat. C'est-à-dire tu pourras pas avoir un poste. En fait, il y a un maximum que tu pourras pas dépasser. Par exemple, dans mon cas, dans l'entreprise où j'étais, je pouvais éventuellement être chef de projet d'un gros projet. Mais j'aurais jamais pu être directeur d'une business unit ou un truc comme ça parce que j'ai pas les diplômes pour ça et parce que les mecs qui veulent le même poste que moi, ce sont des personnes qui sortent de Polytech, HEC, etc. Donc des grosses écoles que moi j'ai pas fait. Donc en fait, je peux pas lutter sur ce plan-là. C'est un combat qui est perdu d'avance. Et c'est aussi quelque chose qui m'a motivé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de faire un métier où en fait ta seule limite, c'est tes résultats et ce que tu fais. Et c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat. C'est que l'entrepreneuriat est une méritocratie. C'est-à-dire que si ce que tu fais est utile, même si tu travailles qu'une heure par semaine, tu vas réussir. À le contrario, si ce que tu fais est pas du tout efficace et que tout le monde s'en fout, tu peux travailler 80 heures par semaine, tu gagneras pas un rond. Et c'est ça que j'aimais dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque part, c'est un nouveau challenge et c'est un moyen de dépasser un plafond de verre, le plafond de verre du salariat, qui est une réalité malheureusement.
Ok, super, super vision des choses. Je suis entièrement d'accord avec toi d'ailleurs.
Je sais pas comment
Ça
c'était
qui
dans
plutôt
l'intérim
aide
pour
beaucoup.
toi, mais je pense que t'as dû sentir aussi qu'il y avait un plafond de verre que
Alors,
tu peux pas dépasser.
bah très clairement, puis effectivement, le diplôme fait beaucoup de choses parce que j'ai un bac plus 5 de mon côté en management des ressources humaines et grâce à ce diplôme-là, j'étais responsable recrutement en très peu de temps. Si tu veux, j'ai quitté mon job, j'ai postulé ailleurs et immédiatement, j'ai eu un poste qui, logiquement, est au-delà de mes qualifications initiales parce que j'avais peut-être 3 ans d'expérience à la base, tu vois. Mais le diplôme fait énormément, très clairement. Je dis pas que j'étais pas compétent, très clairement. Mais dans le cas, le poste que j'avais ne reflétait pas l'expérience professionnelle que j'avais. Si je résume. Et du coup, je pilotais des gens qui avaient 2 fois mon âge. Mais bon, ça
Ah ouais,
c'est
je
un
vois
autre
un peu le
sujet,
genre,
mais
ouais.
ouais, c'est assez compliqué au début, et bon, après, on s'y fait. Et les gens s'y font aussi, très clairement. Quand tu montes ton expertise derrière, ça aide beaucoup.
Au début, t'as
Mais
dû
tant
être
que
pas
t'es
mal
pas vieux, c'est
challengé,
bête
parce
à
que
dire, mais
s'ils ont deux
je
fois plus que
l'étais.
ton âge.
Je l'ai clairement été au début, ouais, très
Ouais,
clairement.
c'est
Et même
normal.
l'entretien, c'est bête à dire, mais les entretiens, quand tu les fais passer, quand tu commences, j'avais 18 ans, le premier que j'ai fait, c'était face à un électricien qui avait plus de 60 ans. Je comprenais
Ah
pas un seul mot de ce
ouais,
qu'il me disait.
d'accord.
C'était très compliqué, la posture est assez compliquée au début, donc il faut vraiment rapidement s'affirmer par rapport à ça. Mais du coup, le diplôme aide beaucoup. Mais des fois, aide tellement que tu passes des étapes par lesquelles tu aurais dû passer initialement pour acquérir justement l'expertise et la bouteille façon de parler pour être plus légitime.
Ouais.
Et là, je parle vraiment de légitimité perçue encore une fois, et non pas réelle.
Tout à
En tout
fait.
cas, merci pour cet échange. On arrive quasiment au bout. Est-ce que tu as encore d'autres éléments que tu aimerais rajouter, des conseils ou autres, ou potentiellement comment est-ce qu'on peut l'apprendre plus sur toi? Je sais pas. Comment tu veux conclure l'échange?
Alors en ce qui concerne pour accéder pour me contacter, on va dire donc au niveau de mes deux activités, si vous vous intéressez à la séduction, du coup Jérémy, tu pourras mettre le lien dans le podcast.
Bien
Donc c'est un
sûr.
site qui ça l'adresse c'est dragueurdeparis.com. Donc ça c'est l'adresse de mon site de séduction. Et pour mes activités de copywriting, alors aujourd'hui je suis full, donc je prends pas de clients, ça changera peut-être dans les mois qui suivent. Dans ce cas, me contacter par email, là pareil, je te donnerai l'adresse. Et alors attends que je la retrouve, c'est contact@mactroy.biz, donc MIKETROY.biz. Ça c'est pour
Ça marche, tu
le
m'enverras ça
marketing et
par mail de
copywriting.
mon côté. Ça
Yes.
marche super. Et du coup, petite question, Dragueur de Paris, c'est uniquement sur Paris? C'est peut-être bête comme question, mais du coup, dans ton URL, il y a Paris, donc
Oui,
est-ce que si j'habite
c'est pour
en
Paris, ouais.
Bourgogne comme moi, est-ce que je peux... D'accord, ok, une personne qui habite en Bourgogne comme moi n'est pas concernée par ta cible.
Si, mais en général, les gens, ils viennent sur Paris, justement.
D'accord, ok, d'accord. Donc si vous
On
voulez
a même
déménager
eu
sur
des
Paris...
étrangers. Par exemple, j'ai un client qui habite à Los Angeles, par exemple. J'en ai un qui habite à Singapour. J'en ai un qui habite en Allemagne. Ça n'empêche pas d'avoir des clients à l'étranger. Donc là, le nom Paris, j'ai choisi essentiellement pour des considérations SEO, hein, donc des considérations Google.
Bien sûr, de
Mais
référencement.
des personnes qui habitent pas à Paris s'intéressent à l'activité qu'on fait, tout à fait. Ouais.
Et petite question, tu proposes quoi précisément sur ce site, Dragueur de Paris?
Alors, notre spécialité, c'est les rencontres en ligne. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des personnes qui sont dans le monde entier. C'est-à-dire que, comment dire, on accompagne des personnes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à faire des rencontres, pour faire des rencontres grâce à la puissance des applications en ligne. Parce que si tu veux, pour rencontrer quelqu'un, quand tu es un homme célibataire, tu vas rencontrer une femme. Il y a plein de moyens. Il y a le cercle social, mais en général, ces hommes-là n'ont pas forcément beaucoup de femmes dans leur cercle social. Ça, c'est le premier problème. T'as la drague de rue, mais les gens aiment pas forcément draguer dans la rue. T'as la drague en bar, en boîte de nuit, mais les gens aiment pas forcément la drague en bar, en boîte de nuit. Et depuis une dizaine d'années, bah, il y a un nouveau moyen de rencontre qui a un petit peu révolutionné la manière dont les hommes et les femmes se rencontrent. C'est les applications de rencontre. Et c'est l'outil qu'on utilise et qu'on donne à nos clients, c'est-à-dire on leur fait ce qu'on appelle des refontes de profil, des shootings photos, pour les valoriser, pour augmenter leur valeur perçue, pour qu'ils puissent rencontrer des femmes partout dans le monde, en France et à l'étranger, depuis une simple application, donc depuis leur téléphone.
Ok, ça marche. Donc, si les personnes sont intéressées par ça, allez voir le travail de Mike directement. Et j'ai vu que tu vendais aussi des formations pour aider les gens à aller encore plus loin que ton
Oui.
contenu gratuit.
Ouais, on fait à peu près, on fait beaucoup de coaching, mais on fait aussi, on a une partie formation en ligne. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent apprendre les bases de la séduction et qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un coaching privé, puisque le coaching, c'est très très cher. Donc pour les personnes qui n'ont pas ces moyens-là, il y a les formations en ligne qui permettent à ces hommes-là de se former déjà, parce que la séduction, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas avec les bases de la séduction. Il y en a qui les apprennent naturellement, mais il y en a qui n'ont pas eu la chance de les apprendre, ce qui a été mon cas il y a très longtemps. Donc à défaut d'avoir cette base de connaissances, eh ben, il faut l'apprendre. Et puis ensuite, ces personnes-là peuvent appliquer de leur côté et progresser par elles-mêmes.
Rapidement, tu joues sur des biais humains, des éléments comme ça, je pense.
Non, c'est tout simplement enseigner aux gens comment séduire une femme. Je te prends un exemple type, et c'est aussi pour ça que j'attire beaucoup de clients comme ça, parce que je suis moi-même ingénieur. J'attire énormément d'ingénieurs chez moi. Pourquoi? Parce que l'ingénieur a une pensée logique et rationnelle, et le problème, c'est que l'ingénieur a tendance à appliquer ce mode de pensée sur les femmes. Donc c'est-à-dire qu'il se dit, pour séduire une femme, il faut aller au restaurant, il faut lui montrer de l'intérêt, il faut ci, il faut ça. Et en fait, il oublie complètement la notion de l'émotionnel. L'émotion, l'ingénieur ne sait pas ce que c'est. Et une grande partie de notre travail, c'est d'apprendre justement à être plus émotif, à apprendre à être humainement chaleureux, à apprendre à avoir de l'empathie, parce que c'est ça qui permet de séduire quelqu'un. Et cette typologie d'hommes ne sait pas le faire, parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire, justement. Et ça, c'est le problème que j'ai rencontré il y a 10 ans quand je me suis intéressé à la séduction.
Très bien, oui, ils ont un peu une checklist, on va dire, à suivre. Il n'y a pas le côté émotionnel dans la checklist en question. Ok,
Ouais,
ça
bah,
marche.
il y en a qui, si tu veux, il y en a qui apprennent ça très tôt, il y en a qui l'apprennent naturellement, donc ces hommes-là n'ont pas de problème pour faire des rencontres. Mais il y a des hommes à qui on n'apprend jamais ça, c'est-à-dire leurs parents leur apprend pas, personne leur a jamais appris, et du coup ils commencent à essayer de séduire une femme, d'aller faire des rencontres, Et ça marche jamais. Et typiquement, le syndrome pour ça, c'est soit il a absolument aucune femme dans son cercle, ou alors le fameux, ça tu dois connaître, Jérémy, le syndrome de la friendzone, c'est-à-dire que ils ont des amis filles, mais quand ils essaient de passer à l'étape supérieure, et ils se prennent toujours le même obstacle. C'est-à-dire que à chaque fois, les femmes vont leur dire. Imaginons, il s'appelle Cédric. Cédric, écoute, t'es un homme sympa, t'es vraiment cool,
de plaisir à
mais j'ai pas le feeling, j'ai pas le petit truc.
À l'enregistrer
et du coup, je préfère qu'on reste amis.
Pour rappel,
et ça, c'est un truc qu'ils entendent tout le temps.
Été évoqué durant
et ça, c'est typiquement le problème quand tu as basculé sur un rapport un peu plus émotionnel parce que c'est ça qui te permet de.
Donc, pensez à m'envoyer vos questions par email via le formulaire.
Donc, si les gens veulent en savoir plus sur cette thématique-là, il y a ton site Dragueur de Paris. De Paris, pardon.
Dragueur de Paris.
Très bonne journée.
Dragueur
de
Paris. .fr, je présume.
Sur performance.com.
D'accord.
Professionnel.
Ça marche. En tout cas, tous les liens seront présents en description du podcast. Ainsi que ton email pour le copywriting si jamais ça intéresse des personnes. Eh bien, merci pour cet échange.
Merci à toi, Jérémy. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Et tout comme j'ai toujours du plaisir, toutes les semaines, j'écoute au moins un ou deux de tes podcasts. Donc, continue. T'as un auditeur fidèle qui continue de t'écouter. Et je recommande le travail de Jérémy. Très, très, très bon travail. Beaucoup de bonnes méthodes que tu proposes dans ton contenu.
Merci sincèrement pour ce retour et potentiellement très vite pour un autre sujet, qui sait.
Ouais, avec plaisir.
Salut. À plus, Mike.
Merci, Jérémy. Ciao.